Bienvenue dans Café Crème, le podcast qui parle de cinéma, de littérature et de bien d'autres choses encore. Je suis aujourd'hui avec Aurélie.
Bonjour.
Et Margot.
Bonjour.
Et moi, c'est Juliette. Et on va faire un épisode sur la poésie. Alors, j'aimerais d'abord vous demander, Margot et Aurélie, c'est quoi votre rapport à la poésie ?
Moi, j'ai un... C'est un peu étrange parce que je me souviens que au collège et lycée, quand on a commencé à lire de la poésie pour les cours, j'ai le souvenir de ne pas du tout aimer ce genre de littérature. Et arrivé à l'université, j'ai un peu redécouvert, mais sans trop vraiment m'y intéresser. Et en fait, grâce à ce podcast et tous les livres que Juliette nous a fait découvrir, je me suis vraiment découvert une passion pour la poésie. Donc je suis vraiment très contente en fait de m'être plongée dans ces livres. Et je pense, voilà, continuer à en lire cette année et les années à venir, je pense. J'espère, en tout cas.
Et toi, Aurélie ?
C'est un peu comme Margot. J'ai lu, bien sûr, au lycée, les recueils qu'on nous a obligés de lire. Et en fait, j'avais l'impression que la poésie, c'était très intellectuel comme façon de lire. Il fallait décrypter chaque vers pour en comprendre le sens. Et j'avoue que j'ai détesté ça, finalement, parce que j'avais l'impression que c'était trop difficile d'accès. Et j'ai complètement, pour le coup, arrêté de lire de la poésie jusqu'à il y a 3 semaines où tu nous as ramené plein de recueils. Et je m'y suis un peu replongée et j'avoue que les premiers ont été difficiles. Et plus je continue à lire, plus j'aimais ça. Et comme Margot, je pense que je vais continuer à en chercher et à en lire parce que j'ai trouvé que c'était très beau, mais on en parlera sûrement après.
Eh bien, super. Et bah, de mon côté, la poésie, j'ai commencé vraiment à tomber dedans, plus au lycée. Et je crois que c'était surtout avec Éloire et l'amour, la poésie. Vraiment, c'était mon recueil de chevet. Puis après, j'ai commencé à taguer des extraits de l'amour, la poésie dans les couloirs de la fac. Donc, si vous êtes à l'université Paris-Cité et que vous voyez du Éloire, c'est moi. Et sinon, après, j'ai commencé à lire donc Éloire, puis Jacotet. Puis après, je me suis plus penchée vers la poésie contemporaine. Et pour moi, la poésie, c'est quelque chose de très précieux parce que c'est un rapport au monde, d'être au monde, qui est sur le surgissement d'images inédites. Et c'est de cultiver aussi notre regard sur toutes les petites choses de la vie. Et je trouve que ça rééduque notre regard. Et depuis que j'ai commencé à écrire de la poésie et à en lire, je vois plus le monde pareil. Et je trouve ça très beau.
Oui, et puis peut-être aussi préciser que le contexte est différent. Parce que nous, on lit pour notre plaisir aujourd'hui cette poésie. Et on est très content de pouvoir en discuter aujourd'hui. Les livres de poésie dont on parlait avec Aurélie, où on a eu un peu plus de mal à rentrer dedans, c'était vraiment dans un contexte scolaire. Donc il y a aussi ça à évidemment préciser. Donc aujourd'hui, c'est une lecture vraiment par plaisir. Et avec Aurélie, on se faisait vraiment la réflexion il y a 2-3 semaines, quand on en discutait déjà, qu'on était tellement contentes de pouvoir redécouvrir ce genre. Et maintenant, on va lire que ça, je pense.
Mais c'est vrai qu'il y a tout un rapport avec la poésie classique, qui est bien sûr très belle puisqu'elle est classique, qui nécessite cette compréhension. Et là, de la poésie contemporaine, il y a quelque chose qui résonne en nous, en fait. Il y a des vécus, même s'ils sont intimes, qui peuvent résonner à notre propre vécu. Et ça, j'avais pas ça au lycée avec Les Fleurs du Mal.
Oui, bah, en plus, je trouve qu'au lycée, il y a quand même l'idée de décrypter, décortiquer chaque image, alors que, et ça que j'aime dans la poésie surréaliste, c'est qu'une image n'est pas forcément faite pour être comprise, mais plus pour être vraiment ressentie. Et c'est vrai que c'est ça qui est chouette avec la poésie, c'est de se laisser guider dans un monde d'images et de sonorités et de pas commencer à tout décrypter, quoi. Alors, Margot, toi, tu as décidé de nous parler de « J'ai fermé mes maisons ». Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce recueil ?
Je suis tombée, mais vraiment amoureuse de ce recueil. C'est vraiment... Il est sur ma table de chevet maintenant, je l'aime tellement. Alors, c'est un recueil qui s'appelle « J'ai fermé mes maisons » et qui est écrit par Marianne Katsaras et publié aux éditions Bruno Doucet en 2021. Alors Marianne Katsaras, elle est fille de parents grecs et elle naît à Djerba en Tunisie. Après ses études de lettres, elle décide de se consacrer à la photographie. Et grâce aux mots et à cette photographie qu'elle étudie et qu'elle pratique, elle arrive à faire ressurgir la réalité d'un passé parfois perdu. Alors déjà le résumé, moi j'étais déjà très emballée. Et donc en 2021, elle dévoile ce recueil « J'ai fermé mes maisons » un recueil, ou plutôt que dis-je, une quête de recherche d'identité, le parcours d'un exil sans fin. C'est comme ça que je l'ai compris. Donc au début du recueil, on trouve une lettre de Muriel Tsak qui dit cette chose. « Mais au fond, peu importe où tu te trouves aujourd'hui, tu es partout et toujours sur ton île. L'insularité te colle à la peau comme une damée. Elle te libère et t'empoisonne. » Moi, je suis tombée
très
amoureuse. C'est tellement beau d'écrire ça. J'ai été conquise dès les premières lignes de ce recueil, conquis par le sens de ces mots, par les poèmes que j'allais découvrir par la suite, des poèmes qui racontent, qui chantent l'exil, mais qui chantent aussi l'absence. Alors j'ai l'impression que tout le monde peut se retrouver dans ces poèmes, en fait, dans les histoires qu'elles racontent, dans les vies, dans les rencontres, dans la violence, parce que c'est quand même assez violent, il y a des références à la mort, aux attentats, aux armes, à la faiblesse. Et donc c'est assez étrange, en fait, de retrouver cette violence qui est aussi mise en parallèle avec une forme de douceur. J'ai trouvé ça très particulier. On retrouve aussi des photographies qui entrecoupent le livre et qui apparaissent vraiment sans qu'on s'y attende. En fait, on tourne la page et on tombe sur une photo, ce qui est assez étrange. Elles apportent, je trouve, un regard nouveau sur le récit et permettent d'imaginer peut-être différemment les mots que Marianne Katsaras essaye de raconter. Moi, je pensais, ce que je disais au début, avoir beaucoup de mal à lire la poésie. Mais en fait, ma rencontre avec « J'ai fermé mes maisons » a tout transformé. Grâce à ce recueil, j'ai ressenti la douceur, la brutalité, mais aussi la beauté, la délicatesse, vu les images, découvert l'exil dans les vers. Et donc, j'ai été évidemment très touchée par ce recueil. J'ai trouvé une rapidité et un calme dans ce recueil, deux choses qui sont évidemment très différentes, et je trouve que c'est deux choses qui me caractérisent assez bien. C'est peut-être pour ça que je l'ai tant aimé. Et je retiens d'ailleurs ces quelques vers, un très joli qui dit « C'est dans la peur que j'ai trouvé la paix ». Voilà, je pense que c'est à afficher partout. Je pourrais l'écrire sur les murs de la fac. Et il y a également « Fermer les yeux et défaire les images une par une, les images du silence ». Je crois que c'est un vers qui clôture un poème. Je trouve ça tellement joli. Et donc, c'est des vers qui vont me suivre très longtemps dans ma vie, je pense, et dans ma propre quête d'identité.
Eh ben, c'est des très beaux mots pour un très beau recueil, donc.
Mais moi, c'est assez marrant, parce que je l'ai lu également. Mm-hmm. Et j'ai peut-être moins aimé que toi, finalement, même si tu le vends tellement bien que j'ai envie de le relire et de l'aimer comme toi. Parce que je l'ai peut-être trouvé même politique par rapport aux autres livres dont on va vous parler. Parce qu'elle parle beaucoup de migration, de la crise migratoire. Et j'ai adoré la façon dont elle en parle, parce que finalement, comme tu dis, c'est très doux. Et en même temps, quand on s'attarde sur les vers, c'est très fort, c'est très politique. Et je l'ai aussi trouvé très référencé, et c'est peut-être ça qui m'a empêchée de le déguster pleinement.
Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de références, même à la mythologie grecque, etc. Mais en même temps, des fois, ce qui est marrant, c'est que normalement, je n'aime pas trop cette poésie, la poésie contemporaine qui s'empare de la mythologie grecque pour faire un peu un télo ou je sais pas quoi. Mais là, ça faisait tellement naturel et tellement, je sais pas, c'était réinventé, c'était sincère. Et tout de suite, moi, ça m'a embarqué, vraiment.
Moi, je trouve ça drôle de voir comment chacun perçoit la poésie. C'est tellement particulier comme style de littérature. Et moi, quand j'ai commencé les premiers poèmes, j'ai vu direct le prisme du voyage, en fait. Évidemment, il y a un côté politique, il y a plein de références. Mais en fait, c'est un recueil qui emmène, qui nous fait voyager quelque part. C'est une auteure qui, je disais, a des parents grecs, qui a vécu et qui a grandi en Tunisie. Et donc, rien qu'avec ces deux origines-là, elle va nous emmener dans ses origines à elle et nous faire découvrir tellement d'autres pays. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Après, encore une fois, c'est tellement personnel comme genre, la poésie, que chacun peut avoir son propre avis et son propre ressenti. C'est ça qui est génial.
C'est là aussi où on voit, comme tu dis, la place en fait, que le poème accorde à notre imagination par rapport à un roman, finalement. Il y a tellement peu qui est dit que l'imagination remplit tous ces silences.
Oui, et puis il y a quelque chose de beau dans le fait que ça soit crypté, mais pas crypté comme une art contemporaine. Par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai vu une exposition où il y avait un sac de boxe. Voilà, c'était en mode ready-made, etc. Et en fait, l'explication, c'était « Ah, mais en fait, c'est pour montrer qu'on a envie de se défouler, mais son statut muséal fait qu'on ne pourra jamais le toucher. » Et j'ai trouvé l'explication plus intéressante que l'œuvre en elle-même. Et donc, moi, j'ai un peu du mal avec la poésie qui doit être décrypté pour être apprécié. Mais ce qui est beau justement dans une certaine forme de poésie, c'est que le fait que ça soit crypté mais en même temps nous tende parfois des mains fait qu'on les saisit et on se fait ouais, le poème soi quoi. Et, et je trouve ça vraiment ouais, c'est pour ça que ça me touche autant je pense.
Oui, puis c'est un recueil parfait encore une fois à emmener si vous décidez de voyager ou faire un long voyage un jour ou même un plus court. Vous pouvez l'emmener dans votre valise. Il vous accompagnera avec brio.
Est-ce que tu veux nous lire un petit extrait
Oui, je peux lire. Bah, tous les poèmes ont vraiment tous touché, je pense, à des niveaux très différents. Mais donc, celui que j'adore, et c'est surtout le début que j'aime du poème qui s'appelle « J'ai fermé mes maisons », le même titre que le recueil. « J'ai fermé mes maisons, une à une ce matin, et je pars. Mes maisons, celles d'hier et celles d'aujourd'hui, celles du pays premier, où pousse désespérément un olivier en pierre, la maison de l'enfance, où dort éternellement la jeune femme maigre au sein nu, et la maison des routes, où le vieil Oedipe, assis sur un rocher sans ailes, rit aux éclats. J'ai fermé la maison de l'été, aux fenêtres sans rideaux, où s'entassent les canicules, les douches pauvres et les chairs désertées, les maisons de l'hiver, où l'océan a emporté les clés, le toit et les bouquets fanés. »
Magnifique.
C'est tellement beau, j'en ai vraiment des frissons.
Ça me demande presque, bon, aussi c'est parce que la poésie est par essence musicale, mais ça donne envie d'en faire une chanson aussi, je trouve.
Tellement, mais oui. J'imagine une mélodie ou même juste des bruits, en fait, quelques bruits qui se baladent.
Puis moi, je sais pas pourquoi, mais alors que ça parle pas exactement de ça, mais ça me rappelle un peu quand on part de maisons de vacances et qu'on les ferme.
Oui, bah le...
Et que ça a une odeur particulière, je trouve, quand on les réouvre aussi.
Ah, mais c'est chargé d'histoires, de sensations, d'émotions même.
Eh bien, nous allons passer maintenant à notre deuxième recueil de notre sélection. Cette fois-ci, c'est Aurélie qui va nous le présenter.
Alors oui, j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui un recueil de Cécile Coulon qui s'appelle « En l'absence du capitaine ». Alors, Cécile Coulon, elle est déjà connue pour ses recueils de poésie. Elle a également écrit le recueil Les Ronces, qui a eu donc le prix Guillaume Apollinaire en 2018, ainsi que le prix Révélation de la poésie de la Société des gens de lettres. Donc, elle est bien sûr connue pour la qualité de ses recueils. Et en l'absence du capitaine, ça a été vraiment une explosion d'émotions à la fois tristes, mélancoliques et en même temps de joie pure. Donc pour revenir assez rapidement sur le résumé de ce recueil, en fait elle commence à écrire lorsque sa grand-mère décède, sa grand-mère qui est donc le capitaine de sa vie, donc c'est une très belle image pour montrer à quel point elle était importante donc dans sa vie. Le recueil il va vraiment passer presque par toutes les phases du deuil, de la tristesse, de l'absence, même de la colère et finalement de la reconstruction. Et je pense que c'est vraiment la reconstruction qui m'a le plus émerveillée, qui m'a le plus portée dans ma lecture parce qu'on a peut-être tous eu une expérience avec le décès d'un proche. Même si c'est un recueil sensible, intime, il est presque universel dans la façon dont il raconte les sentiments. Et je reviens un peu sur la comparaison roman, poème, poésie, même si elle est diverse. Mais vraiment, le poème, il y a cette chose si intime et en même temps ces silences qui permettent au lecteur de se mettre à la place de l'auteur, qui est moins possible, en tout cas pour moi, dans le roman. Et donc vraiment, je l'ai adoré, j'ai pas pu le lâcher et je pense que je vais me l'acheter pour le garder dans ma bibliothèque. Parce que comme on rappelle, ce podcast est sponsorisé par la bibliothèque de Julie.
Tout le monde va s'aider à acheter un livre aujourd'hui.
Et En l'absence du capitaine, c'est une préface aussi de Mathias Malzieux. Et peut-être qu'on n'a pas vraiment parlé, enfin, t'as commencé à parler de la préface et j'en parle également. Je trouve que la préface permet vraiment de rentrer dans l'univers du poème d'une façon très douce pour pas avoir un poème directement qui...
Oui, puis c'est des genres différents souvent parce que souvent ça commence par une lettre ou quelques pages d'un récit. C'est pas tout de suite dans le recueil s'ouvre pas tout de suite sur une poésie, donc c'est toujours peut-être plus délicat aussi de rentrer dans un recueil avec une autre forme de littérature.
Et d'ailleurs je vais lire une phrase qui résume bien en fait ce que j'ai ressenti à la lecture de ce recueil, donc de Mathias Malzieux. Il dit: on vous a coupé un membre de la famille, il ne repoussera pas, mais l'engrais de vos poèmes transforme nos cœurs de lecteurs en bouquets de printemps, éternel muguet.
C'est tellement beau
et c'est vraiment magnifique. Voilà, je sais pas si vous, quelle est votre expérience de lecture avec celui-là.
Bah, en fait, à la base, moi, j'ai connu plus Cécile Coulon pour ses romans. Et aussi, je la suivais sur Instagram et je lisais sa poésie sur Instagram. Et ses poèmes qu'elle poste sont très différents de ce qu'elle publie ici. Et donc, j'en avais entendu beaucoup de bien, donc je l'ai acheté. Et là, j'étais vraiment impressionnée et émerveillée ouais, par cette plume, qui est, je trouve, beaucoup plus aussi à la fois tendre et brutale, je sais pas comment expliquer. Là où le côté sur Instagram, il y a un côté un peu plus peut-être lisse, je pense qui est par rapport au fait que ça soit sur Instagram. Et là, oui, le poids de l'absence et la résilience qui vient ensuite, la reconstruction, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, oui.
Mais moi, je trouve ça tellement rare et précieux, un livre qui raconte le deuil et qui le raconte en plus bien. C'est tellement beau d'avoir un objet comme ça dans ses mains. Et ce livre-là, moi, il m'a beaucoup touchée. Surtout, je pense, les premiers poèmes, en fait. Je crois que c'est la première partie, c'est celle qui m'a le plus bouleversée, peut-être. Parce que, c'est ce que disait Aurélie, on a tous, j'imagine, connu un deuil quelque part dans notre famille, un proche, quelqu'un d'un peu moins proche. Mais on sait ce que ça fait de perdre quelqu'un et de perdre un pilier quelque part. Et c'est tellement bien raconté dans les premiers poèmes que on est obligé de s'identifier dans les premiers poèmes. C'est vraiment bien amené. Voilà.
Et aussi, ce que j'ai préféré, en tout cas dans ce livre de Cécile Coulon par rapport aux autres, c'est que les poèmes sont beaucoup plus longs. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de mieux m'y plonger. C'est vraiment des histoires avec un début, une fin, un milieu. Et c'est vraiment aussi ça que j'ai aimé. C'est que j'ai réussi à me plonger plus dans ce poème.
Et c'est drôle parce que dans les livres, dans les différents recueils qu'on a lus, il y a cet aspect, ça traite quand même pour une grande partie de la famille, de la question de dire au revoir, de partir, de revenir, et du lien qu'on entretient encore avec les personnes. Et donc celui-là, il est tellement représentatif de tous ces thèmes que je viens de lister. Voilà, moi je le recommande aussi autant qu'Aurélie.
Et pour nous donner un petit avant-goût de ce livre, est-ce que tu voudrais bien nous lire un extrait ?
Alors, avec plaisir. Donc, comme je vous ai dit, la partie sur la reconstruction est celle qui m'a le plus plu. Donc, je vais vous lire un extrait de Sourire idiot. Va-t'en, mon beau chagrin, mon souci plein de larmes. Tu es si grand, depuis la tendre enfance, à te nicher, dans les plis des journées, tel un chat qui avance. Au devant du perron, où bientôt on le couvre, de caresses, de mots doux et de petits baisers. Va-t'en à l'autre bout du jardin, enterre-toi dans les feuilles, apprends à vivre dehors, ne viens pas me flanquer au ventre, tes vives inquiétudes et tes colères d'acier qui claquent, comme des machines aux longs bras d'araignée. Va-t'en, ne t'éloigne pas trop, je voudrais être heureuse, mais toute ma courte vie, j'ai porté sur mon dos ta voix, ta chaleur et tes gestes d'écriture. Chacun a sa blessure, certains en font des tombes, d'autres des armures. Va-t'en, mon bel ami, aux yeux crevés par les sanglots. Laisse-moi vivre l'âme tranquille, avec au beurre des lèvres, un grand sourire idiot.
C'est tellement beau.
C'est très bien lu.
Pouvoir de la poésie, surtout. En fait, j'aimerais que quelqu'un me lise de la poésie. C'est ça.
Mais je pense qu'on devrait lire plus de poésie.
Ouais. Mais que quelqu'un soit avec moi et m'en lise un peu tous les jours.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la base, les poèmes, ils n'étaient pas faits pour être lus tout seuls. Ils étaient faits pour être déclamés. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, je crois beaucoup au pouvoir des lectures musicales et je vais beaucoup voir, à la Maison de la Poésie ou autre, vraiment des que ça soit en roman d'ailleurs aussi, des lectures et de poèmes. Encore mieux, j'avais vu un spectacle sur des lectures de poèmes d'Aragon et qui était mise en scène avec de la musique et aussi avec des chansons d'un chanteur et du coup, il y avait les poèmes d'Aragon et d'autres chansons qui devenaient les miroirs de l'un de l'autre et ça donnait une ampleur encore plus grande en fait. Oui, une ampleur plus grande. Pourquoi pas ?
On peut tout dire.
On peut tout dire. On a le droit.
Et toi, Juliette, alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ?
Moi, j'ai choisi de vous présenter Et recoudre le soleil de Gaëlle Josse. En fait, pour vous le présenter, je crois que le mieux, c'est de prendre les mots de Gaëlle Josse parce qu'elle le dit bien mieux que moi. J'ai écrit ces textes dans des carnets, des cahiers, sur des pages volantes, des agendas, des tickets, des listes, des enveloppes, des marque-pages ou dans mon téléphone. Je les ai écrits dans les gares, les trains, les hôtels, les cafés chez moi, dans le métro, en ville et en d'autres lieux. J'ai eu envie de vous offrir aujourd'hui cette moisson de mots cueillis jour après jour, qu'ils aient été d'orage ou d'allégresse, mais vivants, vivants, oui, et vibrant toujours. Alors moi déjà, ce qui m'a beaucoup plu dans cette approche, c'est que je me suis un peu reconnue parce que j'écris partout, tout le temps partout, et sur n'importe quoi. Ça m'est déjà arrivé d'écrire en soirée sur un sopalin imbibé d'alcool, voilà, et que j'ai gardé.
J'allais dire, j'espère que tu l'as marqué autre part parce que ça a l'air de se dissoudre assez vite.
Oui, oui. En même temps, ce que j'y avais noté n'était pas très intéressant finalement. À 3h du matin, alcoolisé, il n'y a pas que des bonnes idées qui arrivent. Et donc moi, ce que j'ai aimé dans ce recueil, c'est que c'est plein de voilà d'instants et de plein de petites photos. Et moi, j'ai beaucoup un imaginaire photographique. Quand je me balade, si je vois, je sais pas, j'en sais rien, un ballon dans un parc, bah, j'ai envie de faire une photo mentale. Et c'est ces petits détails que je reconnais. Mais c'est aussi ces détails qui racontent une histoire aussi. Ce ballon, par exemple, dans un parc, c'est pas qu'un ballon, c'est le ballon qui a été tapé par des enfants, qui a été piqué, le ballon qui est seul et qui exprime quelque chose aussi. Et c'est ça que j'ai retrouvé dans ce recueil, oui, je crois.
C'est un peu ce qui m'a plu aussi dans ce recueil. C'est vraiment de me dire que la poésie, c'était dans chaque geste du quotidien. Oui. Et je pense que c'est quelque chose un peu pour réenchanter sa vie, de penser en poésie finalement. Et avec la lecture de tous ces recueils, je me suis vraiment dit dans mon quotidien, j'ai envie de voir dans les petits gestes, dans ce ballon dont tu parles, la poésie du moment.
Ah mais je crois beaucoup en ça, et je pense que le fait d'avoir eu la chance de vivre un petit peu à Kyoto très jeune m'a appris ça, le fait de se concentrer sur les petites choses. Et d'y voir en fait la plus belle beauté, la plus belle complexité dans les choses simples. Et c'est un apprentissage en fait. Et je trouve que c'est quelque chose même qu'on devrait nous apprendre à l'école en fait. Parce que arriver à trouver dans des détails cachés d'une rue des petits moments d'émerveillement en fait, ça peut sauver une journée. Et c'est dommage qu'on ne l'apprenne pas. Et je trouve que justement la poésie, ça nous apprend ça.
Ouais, et puis je trouve qu'il y a aussi un aspect un peu de guérison. Mais ça, c'est peut-être propre aux trois recueils qu'on a présentés. Après avoir fini de le lire, on ferme et on réfléchit encore plus et on prend ce temps vraiment, contrairement à peut-être des romans où on pourrait se dire « Ah, j'ai envie de lire la suite, j'ai envie de lire un autre livre qui est dans le même thème ». Je trouve que la poésie, elle donne vraiment cette envie d'attendre, de tout réfléchir. Et se dire qu'est-ce que je vais en tirer, qu'est-ce que je peux en faire, est-ce que moi aussi j'ai envie d'en écrire, qu'est-ce que je peux découvrir encore. Mais je trouve que la poésie, c'est une littérature qui est plus patiente, qui on peut prendre le temps, on s'accorde le temps, c'est surtout ça, voilà, s'accorder le temps. Et c'est ça que j'ai bien aimé en redécouvrant la poésie et ces trois recueils-là.
Est-ce que tu veux nous lire quelques extraits?
Oui, j'ai choisi deux poèmes courts, parce que les poèmes de ce recueil sont assez courts. Qui je trouve se répondent très bien et qui me parlent beaucoup. Une trouée de mémoire, comme des arbres qui s'écartent, bousculés par le vent. Un éclair d'enfance, une balançoire, des pivoines, quelque chose, une gaieté oubliée, un jardin endormi. Chambre noire de l'enfance, chambre aux jouets oubliés, le chien à roulettes, l'ours éventré, des étoiles éteintes collées sur les murs, elles ne brillent plus. Des voix confuses dans la maison, assise en bas des marches, cet enfant qui me regarde. J'aimerais prendre sa main, lui murmurer que tout n'est pas si terrible, parfois.
C'est vrai que quand tu le lis, on imagine, il y a vraiment les images mentales
mais
qui
oui,
arrivent.
Tellement.
Encore plus que quand je l'ai lu, là, on est emporté par ces images mentales.
Et je trouve que ça donne tellement d'inspiration. En fait, je pense qu'avec un poème, on pourrait écrire 1000 romans, en fait. Et c'est ça qui est...
Et puis, c'est pas dur à lire en fait, en particulier ce recueil là je le trouve assez simple, on rentre dans le poème assez rapidement, on comprend le sens, ou en tout cas on comprend le sens qu'on veut lui donner, et donc c'est bien de commencer par un recueil comme celui là qui est évidemment chargé d'émotions et qui invite à l'imagination et à la réflexion.
C'est assez marrant parce que j'aurais dit le contraire.
Ah, le premier clash du podcast.
Attention,
des crèmes.
C'est ça. Non, mais donc je l'adore, hein, y a pas de doute là-dessus. Mais par contre, j'ai trouvé peut-être presque plus dur à comprendre la poésie de ce recueil. Mmh. Parce que, en fait, finalement, t'as trois phrases et on te laisse un peu là-dessus. Et c'est vrai qu'elle nous accompagne pas du tout dans cette réflexion poétique, j'ai l'impression. Ou en tout cas, différemment. Et après, c'est parce que moi, je pense que j'ai adoré le format long poème. Mmh, donc oui, finalement, oui. Ça m'a... Mais je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai envie de dire... si j'avais commencé par celui-là, j'aurais presque été découragée de lire les autres.
Mmh, peut-être, oui.
Tant il est poétique et en même temps, il est, ouais, pour moi, il était presque plus dur à comprendre. En tout cas, c'est mon expérience de lecture.
Bah, c'est vrai que dans « Et recoudre le soleil », il y a quelque chose qui est proche du haïku, du tanka. Mmh. Et c'est vrai que moi, c'est une des formes que j'affectionne particulièrement. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup retrouvée dans ce recueil aussi.
Oui, puis moi, il m'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien de le lire dans des moments plus calmes ou peut-être des moments où j'avais pas le temps, en fait. Pas vraiment. Je sais que celui-là, je l'ai beaucoup lu dans le train ou dans le métro. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été séduite par le côté des poèmes courts et qu'il a accompagné beaucoup de mes voyages, surtout.
Moi, je pense qu'on devrait beaucoup plus lire de poésie dans le métro.
Oui.
Vraiment, oui. Moi, c'est souvent, pour les trajets courts, je prends de la poésie. Et ça me fait une espèce de voyage temporel et synesthésique et tout ce que vous voulez. Et qui est des fois plus fort que si je reprends mon roman en cours et que entre trois stations, bah, j'ai juste le temps d'avancer un chapitre, quoi.
C'est vrai. Et on a l'air très mystérieux, je trouve.
Ouais,
poésie dans le métro.
On est un poète torturé.
Oui. Moi, en tout cas, j'ai eu des regards quand je lisais mes poèmes dans le métro et je me sentais très...
Oui, moi aussi, les gens regardent par-dessus l'épaule et lisent avec toi. J'ai envie de leur lire le poème presque. Donc, on peut partager cette lecture si vous voulez.
Écoutez, on peut commencer à déclamer des poèmes dans le métro, hein, si vous voulez.
C'est la prochaine étape.
C'est la prochaine étape, j'essaierai la prochaine fois. Et comment finir un épisode sur la poésie sans en écouter, et en plus une poésie inédite? Je laisse Juliette clamer son poème.
Clamer, je ne sais pas, mais en tout cas... oui, donc c'est un poème que j'ai écrit et qui, je pense, résume bien ma vision de la poésie. Il s'appelle « Vois-tu ». Vois-tu les montagnes rousses et les brins d'olivier dans mon verre à pied? Vois-tu le soleil sucré et le sang grenadine qui coule sur la colline? Vois-tu les étoiles tombées, les grains de café, les boîtes de sardines, les poulpes ensanglantées, les anémones poussées sur la raquette de tennis abandonnée? Vois-tu les hippocampes murmurer, des paroles oubliées, la canopée transpirée sur la joue d'un enfant et ce goût de bergamote coincé entre les dents? Vois-tu les miroirs fêlés, les rouages des cœurs brisés, les Paris-Brest, les bains de minuit, ce qui reste et ce qui s'enfuit? Vois-tu la nuit silencieuse dans le regard d'un nouveau-né? Vois-tu la nageuse filandreuse sur les remparts illuminés? Vois-tu ces choses qui disparaissent quand on les saisit? Non, tu ne vois pas. C'est bien pour cela que notre amour ne prend pas.
C'est tellement beau. C'est trop beau.
Merci.
Vraiment, quel beau poème pour finir cet épisode.
Ça résume parfaitement ce que je disais avant. Il faut que quelqu'un lise un poème pour bien le comprendre. Là, j'ai fermé les yeux et j'étais là où tu voulais nous emmener. Incroyable, Juliette.
C'est fou comme quelques mots peuvent créer des émotions. Je trouve ça incroyable. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir de ce podcast, c'est à quel point un mot peut nous emmener. On vous propose la crème de la crème, nos recommandations du mois. Alors pour commencer, je vais vous parler d'un livre de cuisine que je viens d'acheter et que j'ai utilisé tout le week-end, qui s'appelle « Mon recueil de douceur », qui a été écrit par Super Lumos. Donc peut-être que vous connaissez son compte Instagram et TikTok, où il publie du contenu un peu slow life, cuisine, tout en douceur. Et moi, je vous conseille vraiment d'acheter ce livre de cuisine de dessert, qui sont vraiment très réconfortants. Et entre les recettes, en fait, Super Lumos... écrit un petit peu des textes entre le développement personnel et la poésie, en fait. C'est presque poétique, ce livre. Et donc, c'est vraiment mon coup de cœur du mois. Je pense que je vais vraiment l'ouvrir tous les soirs pour créer des petits gâteaux tout chauds.
Moi, pour continuer avec la dimension poétique, sans petits gâteaux cette fois, j'ai découvert certainement le livre pour le moment de ma vie, de mes 21 ans. Un livre de Christian Bobin qui s'appelle « Le plâtrier siffleur ». C'est un livre qui a pas plus de 10 pages, donc c'est très rapide à lire. Et il y a une phrase tellement jolie, je trouve, et qui rentre et qui incarne parfaitement ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Alors il écrit « Il n'y a que les poètes qui prennent le monde au sérieux, ceux qui ont la réputation d'être distraits, étourdis, de ne pas mesurer les choses, de ne pas en connaître la pesanteur. Et moi, je vous invite à réfléchir à cette jolie phrase qui, je trouve, résume tellement bien la poésie et le rôle des poètes dans notre monde.
Et moi, j'aimerais vous parler d'un roman qui s'appelle Eden, qui est un roman islandais publié par l'autrice, je vais écorcher son nom, Uaur Ava Olasdóttir.
On l'écrira dans les notes.
Oui, et que j'ai vraiment adoré. Et c'est l'histoire d'une linguiste et donc, qui travaille sur les langues qui sont en train d'être oubliées et qui décide de rentrer chez, d'acheter une parcelle. Et donc, elle décide de planter des arbres. Et donc, on va suivre sur cette parcelle. Et on va suivre un peu son cerveau de linguiste qui m'a beaucoup touchée. Parce qu'elle pense à un mot, ça lui fait penser à l'origine du mot, ça lui fait penser à autre chose. Et j'ai trouvé ça formidable. Et il y a deux choses qui m'ont beaucoup touchée dans ce livre. C'est qu'à un moment donné, il y a cette phrase. Nous parlons des poèmes qui décrivent comment il est possible de surmonter cette chose qu'on appelle la vie. Et ça, justement, je trouvais que pour notre épisode sur la poésie, c'était pas mal. Et il y avait cette phrase que je trouve magnifique, qui dit quelque chose comme qu'on est à chaque instant au centre de sa propre existence. Et en fait, ça pour tout ce qui est cultiver le présent, etc., j'ai trouvé ça simple en même temps hyper complexe. Et voilà, c'est mon petit coup de cœur de ce dernier mois.
Vos coups de cœur me donnent tellement envie d'aller en librairie et de tout acheter. Donc c'est peut-être ce que je vais faire juste après.
Et donc c'est la fin de ce premier épisode de Café Crème. Et on remercie Effervescence pour leur soutien. Et on se revoit là, le mois prochain, pour un prochain épisode.
À la prochaine.
À la prochaine.